gaz, il faut qu'on se nourrisse de la tactique la plus docile. Cela sent fort la fin de la parenthèse des énergies fossiles. L'air pétrolifère se finit, nul besoin de phare pour le voir. L'homme a des gants dégueulasses, faire va nous dégueuler un de ces soirs. Gommons ces galeries de cinglés, puis déréglons les plans. Nous avons stérilisé tant qu'on ne sème plus que des écrans. Nous avons bulldozérisé tout le globe et miné tous ses flancs. La crise écologique a bel et bien monté d'un cran. N'est qu'à la loi du chaos, y'aura pas d'alerte à la météo, y'aura pas d'info, y'aura pas d'intro, car ça n'a plus qu'à péter tantôt. La catégorie des catins qu'on atteint, c'est que d'un gadins de l'écho sur l'éclat, les gars tombés là de la marée noire à bébé jusqu'à Fukushima. Sur sa planète, l'homme se comporte tel un terroriste. On pète les nappes phréatiques pour du gaz de schiste. La tendance à s'accaparer se répand comme la peste. Les banquises, les forêts, les faunes ont pris des méga roustes. De plus en plus dépendants, nous sommes devenus fossilovores. Toxico du carburant, construction, chauffage et transport. Dans les engrais, les aliments et les médocs, on en déguste. La nature nous nourrit et nous de plastique on l'infeste. La guerre maintenant s'appelle géostratégie. On s'échange un gazoduc contre 14 pays. Nous devenons pétrole à force d'en bouffer. Nous avons pris ces énergies, mais qu'avons-en nous fait? Nous avons pilonné le monde au lieu d'en lire mieux les pages. Nous avons donné du fuel à nos fantasmes de carnage. Nous avons méga boosté nos avidités bancales. Et nos erreurs sont devenues industrielles et mondiales. Une guerre avant le pétrole faisait mille fois moins de morts. Mate les bilans des conflits depuis que ça carbure. Pour une telle énergie colossale, étions-nous assez matures? Vois les vallées de béton et les fleuves de voitures. Les pipelines et les tankers, les torchères et les forages. Tout cela a-t-il ouvert en nous le sens du partage? En même pas cent ans de folie folle, on aura cramé une matière végétale ayant macéré sur des millions d'années. Fini le pétrole, le charbon, l'uranium et le gaz. N'attendons pas la dernière goutte, le point de fin de phrase. Abandonnons ces énergies, notre mode de vie s'explore. Et prions pour que nos conneries nous aient fait grandir. Gaz, il faut que l'on se déplace de la tactique la plus tranquille. Gaz, il faut que l'on se nourrisse de la tactique la plus locale. Gaz, il faut que l'on se vêtisse de la tactique la plus habile. Gaz, il faut que l'on se réchauffe de la tactique la plus sociale. Gaz, il faut que l'on se déplace de la tactique la plus tranquille. Gaz, il faut que l'on se nourrisse de la tactique la plus locale. Gaz, il faut que l'on se vêtisse de la tactique la plus habile. Gaz, il faut que l'on se réchauffe de la tactique la plus sociale.
Salut auditeurs, auditrices.
Salut à tous.
Eh bien, c'est Zoom Écologie, c'est jeudi soir. Comme tous les jeudis, 20h30, 21h30, Zoom Écologie sur Fréquence Paris Pluriel. Et ce soir, premier jeudi du mois, c'est la bande à Bébert. C'est bizarre, mais c'est comme ça, pour une fois. Donc Clément au micro.
Khaled.
Salut Cyril à la technique, avec nous, dans la console. Alors ce soir, bah, on remercie le premier jeudi qui nous prête son créneau, parce qu'ils sont encore en vacances. Voilà, nous on fait notre rentrée avec une petite semaine de retard. Et ce soir, on va parler de médias, avec Hervé Kempf, de médias et d'écologie, et de lutte contre les hydrocarbures de schiste, donc ce qu'on appelle les gaz de schiste, les pétroles de schiste. Donc voilà, Zoom Écologie, ce 5 septembre 2013, avec la bande à Bébert. Alors tout de suite, Raled veut nous parler d'une actu en Roumanie.
Oui, rapidement, en fait, en Roumanie, donc l'info n'est pas trop passée, je pense. Donc en gros, il y a eu des milliers de personnes qui ont manifesté donc dimanche dans toute la Roumanie pour défendre l'environnement et dire non au gaz de schiste et au projet donc de mine d'or de la multinationale canadienne Gabriel Ressources, qui utilise donc de grandes quantités de cyanure donc pour cette mine d'or. Et donc en fait, il y a le projet donc des personnes qui sont opposées, en fait, donc il y a des ONG qui sont opposées donc à ce projet de mine d'or et qui en gros en fait font une grosse campagne en fait donc de pression pour que l'UNESCO rentre en fait cette région donc qui s'appelle Roseia Montana, donc en Transylvanie, là où il y a donc ce projet minier dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, qui serait en fait une solution efficace pour mettre fin à ces abus. Il y a une manifestation aujourd'hui donc à Paris donc à 17h30 devant le siège de l'UNESCO, et on vous invite donc à aller d'aller vous informer là-dessus sur internet, donc en tapant sur un moteur de recherche Save Roseia Montana, et vous pourrez avoir plein d'infos là-dessus.
Et vous pouvez aussi retrouver, je pense qu'on mettra en ligne sur zoom-ecologie.net, les infos qui seront diffusées dans l'émission. Voilà, donc ça c'était la petite actu Roumanie, avec qui en fait a les mêmes problèmes au niveau gaz de schiste et extraction de toutes sortes que dans d'autres pays. Et tout de suite, on va recevoir, on a au téléphone une personne du collectif anti-gaz de schiste Ardèche, qui va nous dresser un peu le portrait de la lutte contre le gaz de schiste en France, et particulièrement en Ardèche.
Oui, exactement. Donc il y a Jean-Louis Chopy, donc qu'on va avoir donc au téléphone tout de suite.
Est-ce que Jean-Louis est avec nous ?
Oui, je suis là.
Oui, bonjour Jean-Louis Chopy. Donc vous êtes porte-parole du collectif anti-gaz de schiste, donc ardéchois. Exactement. Merci d'être avec nous ce soir. Et écoutez, en fait, la première question qu'on aurait peut-être à vous poser, c'est sur les gaz de schiste. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs ce que c'est les gaz et huiles de schiste ?
Ils sont formés, etc., comment ils se présentent, hein. Ben, écoutez, il y a 100, 200, 300 millions d'années, il y avait des mers là où actuellement il y a l'Ardèche, il y a la Drôme, il y a la région parisienne, etc. Il y avait des mers ou des grands lacs. Et au fond de ces mers, de ces lacs, se sont déposés tous les squelettes, tous les animaux marins ou non marins qui soit coulés au fond, soit roulés depuis les terres déjà émergées au fond, etc. Et puis des feuilles, et puis des déchets végétaux, et puis etc. Et également, évidemment, des argiles, des poussières emmenées par les vents. Et tout ça se déposait au fond des océans et des lacs à l'époque. L'eau qui est surplombée empêchait l'oxygène de faire pourrir normalement toutes ces choses-là, toutes ces matières organiques. Et alors petit à petit sont venus d'autres dépôts pendant les centaines de millions d'années. Les squelettes de tout le plancton, etc., déposés dans des couches de calcaire en lames, en plaques, empêchant les choses qui commençaient à se former de sortir de là-dessous. Ensuite, petit à petit, tout ça, ça a grossi, ça a donné les épaisses couches de calcaire qu'on connaît, en Ardèche en particulier, mais ailleurs aussi, ou de couches sédimentaires, que ce soit du calcaire ou autre chose, sédimentaire, sur plusieurs milliers de mètres d'épaisseur. Là-dessous, alors, c'est, évidemment, il y a eu une grosse pression par tout ce poids des roches sur plusieurs kilomètres, finalement, et donc des hautes pressions, et également de la température venant principalement du cœur de la Terre, toutes ces couches empêchaient que ça aille plus haut, et donc sous ces hautes températures, de l'ordre de plusieurs dizaines de degrés Celsius, et des pressions de l'ordre de plusieurs milliers d'atmosphères, petit à petit, cette décomposition, en l'absence d'oxygène, a donné donc ce qu'on appelle le kérogène, qui a donné tantôt, suivant la température, soit des pétroles, soit du gaz. Alors il y a plusieurs types, alors ça a donné ça. Ensuite, il y a les mouvements des continents. Hein, l'Italie qui nous est rentrée dedans, l'Afrique aussi. Et donc, ça a créé les Pyrénées. Enfin, ça a bouleversé tout ça qui était bien plat. Et ça a donné des espèces d'ondulations. Et dans pas mal de cas, tout ce gaz, ces petites bulles de gaz, ces petites gouttes de pétrole, sont remontées, quand, tant que les roches étaient perméables, sont remontées sur le sommet de ces vagues-là. Au sommet, ça a donné les réserves qu'on appelle conventionnelles et qui ont été exploitées beaucoup en région parisienne, également dans le sud-ouest, comme par exemple les gaz de lac, etc. Donc, il suffisait de faire un trou vertical, un forage vertical, pour accéder à ces gaz qui sortaient sous pression. Donc, c'était relativement facile. On appelait tout ça conventionnel parce qu'on maîtrisait bien, et on maîtrise bien ces techniques-là. Par contre, il y a une partie de ce gaz et de ce pétrole, en petite bulle dans la roche, qui restait dans des couches souvent plus profondes et prisonnier de la roche, d'une roche qu'on appelle la roche mère, qu'on appelle improprement d'ailleurs le schiste. Donc ces petites gouttes sont restées prisonnières et sont là-dedans. Et donc ce sont les gaz et huiles de schiste ou de roche mère. Donc elles sont prisonnières là-dedans, ces roches non perméables. Et pour accéder à ces gouttes, à ce pétrole et à ce schiste, eh ben, il faut écraser, comme quand une éponge un peu, écraser ça, fissurer, etc., pour que ces petites bulles se rassemblent et sortent par les tuyaux. Et donc, il y a pas très longtemps d'ailleurs, hein, il y a une dizaine d'années, il y a un Américain qui travaille là-dessus depuis longtemps, qui a trouvé une technique pour faire sortir ce machin-là, pour sortir ce gaz, ce pétrole. C'est de fracturer, c'est-à-dire d'envoyer de fortes, de grosses quantités de flotte. Alors, avec de grosses pressions, des pressions pistonnées, choc, pour écraser tout ça et libérer ces petits machins, ces petites gouttes et ces petites perles. Seulement, ben là, c'est pas le tout d'écraser, de créer ces fissures, mais il ne faut pas qu'elles se referment. Donc, ils sont rajoutés dans un premier temps du sable ou des petites bulles, des petits grains quoi, de sable ou de matière plastique. Là. Bon, mais c'était une chose, mais ces bulles ressortaient. Donc il a fallu rajouter petit à petit. Ceux qui ont mis au point cette technique de la fracturation hydraulique ont été obligés de rajouter petit à petit de plus en plus de produits chimiques, pour la plupart, qui permettaient à ce sable de rester là où on l'avait envoyé par l'injection. Ensuite, de parvenir, quand la pression descendait, alors les surfactants, il y a des tas de trucs qu'on injecte là-dedans. Et à la fin de la grosse pression, quand les fissures restent ouvertes par la présence de sable, etc., la pression est diminuée évidemment à la surface. Ah, donc on est les installations sont à 2, 3, 4 km au-dessus. Hein. C'est quand même assez profond ces couches la plupart du temps. Et donc quand la pression diminue, eh ben, à ce moment-là, s'ils ont bien visé, s'ils ont bien fracturé là où ça va bien, le gaz et l'huile de schiste, donc le pétrole de schiste, commencent à sortir. Et seulement, ils ne sortent pas tout seuls, d'une part. Ils sortent avec une grosse partie, souvent la moitié, de l'eau, donc pleine de produits chimiques, qui ressort là-dedans, et qui, en plus de ces produits, interagissent entre eux, fabriquent de nouveaux produits par combinaison chimique, mais également sont en contact avec tout ce qu'il y a dans ces couches, dans ce shell, dans cette roche mère. Il y a plein de molécules. Il y a des métaux lourds, il y a des produits radioactifs, il y a tout ça. Et dans ce qui ressort, il y a une bonne partie de nouveaux corps chimiques, pour beaucoup assez nuisibles à la santé en particulier, par exemple les métaux lourds. Par exemple, des produits radioactifs, il y a du radium, il y a parfois des choses pas très racontables avec des taux parfois très importants. Alors là, ça pose un problème, évidemment, c'est comme on a injecté, pour une fracturation autour de 20 millions de litres, 20 000 mètres cubes de flotte, avec il n'y a qu'un pour cent de produits chimiques, grosso modo, mais 1% par rapport à 20 mètres cubes, ça fait avec à 20 000 mètres cubes. Ça fait beaucoup, ça fait des gros, ça fait quelque chose comme 200 tonnes de produits chimiques. C'est pas négligeable quand même, chaque fracturation. Donc tout ça, ça ressort, et voilà, il y a un grave problème là, le gaz ressort, il est mouillé, il faut le traiter, toute cette flotte, il faut la traiter, c'est pas facile, parce que les usines d'incinération qui existent sont, les usines d'épuration des eaux ne sont pas adaptées à tous ces produits qui sont dans cette eau-là, ils sont adaptés à ce qui sort de nos robinets, qui sort de nos éviers et compagnie. Et donc là, il y a un grave problème de pollution des alentours du puits. Alors,
justement, on se demandait quels sont justement, en gros, les problèmes liés à ces formes d'extraction, et notamment donc au niveau sanitaire, déjà environnemental aussi, comme vous venez un peu de citer, et aussi au niveau démocratique, ce que ça pose aussi derrière comme question.
Ouais, alors on va commencer par évacuer le problème démocratique, parce que c'est vrai que aux USA, les pétroliers sont allés trouver les propriétaires, en général souvent des éleveurs, d'ailleurs dans l'intérieur du USA, il y a beaucoup d'éleveurs, donc ils ont trouvé les éleveurs, et comme le propriétaire du sol là-bas est propriétaire également du sous-sol, et donc des produits qui sont dans le sous-sol. Donc les pétroliers ont donné pas mal d'argent par hectare pour avoir la liberté de perforer, etc. Et les Américains qui étaient approchés ont été très sensibles à ça. Ils récoltaient souvent des centaines de milliers de dollars. Donc ça les arrangeait pas mal. En Europe, en France en particulier, le sous-sol n'appartient pas au propriétaire du sol. Le sous-sol est res nullius, donc il appartient à l'État. Il appartient à tout le monde, si on peut dire, c'est-à-dire à personne. C'est-à-dire à l'État qui gère ça. Et là, tous les permis qui ont été accordés à tous les pétroliers en France, personne n'en savait rien sur place. Il y a vraiment un délit démocratique majeur. Ni les propriétaires, bon, à la limite, les citoyens, bœuf. Mais ni les maires, ni les conseillers généraux, ni les conseillers régionaux, ni les députés n'ont été consultés. Ces permis ont été délivrés directement par les ministères, avec sous la férule des ingénieurs des mines et des ingénieurs des ponts qui gèrent tout ce qui est mines, tout ce qui est énergie, tout ce qui est produit du sous-sol en France. Et donc là, quand on a découvert ça en Noël 2010, là en Ardèche, après avoir lu toute une série d'articles qui faisaient une bonne synthèse et qu'on trouvait sur le site internet de CAP21, c'est un groupe de chercheurs animé par Corinne Lepage, une ancienne ministre de l'écologie. Donc là, on a vu la dimension du problème, le monde entier qui était touché.
Enfin, CAP21 n'est pas un groupe de chercheurs, hein. c'est un parti politique.
Oui, mais c'est des gens qui font des recherches quand même. Hein.
Oui, mais c'est juste pour... Enfin, CAP21 est un parti politique quand même,
oui, à la base. Mais en fait, dans la troupe-là, toujours est-il que, parti politique ou pas, ils avaient sorti un excellent document avec des tas de références. On pourrait les fouiller sur Internet. Et en particulier, il y avait la référence du film Gasland de Josh Fox. Josh Fox qui a tourné pendant pas mal de mois, qui est allé constater partout où il y avait des plaintes liées à ces forages et à ces gaz et huile de schiste, en particulier en Pennsylvanie, en Pennsylvania, le Wyoming, etc. Et donc il a filmé les gens là-bas, les gens qui avaient des tas de problèmes. Alors les plus graves, évidemment, c'est sur la santé humaine, mais il y avait sur la santé animale aussi. Il y avait les récoltes détruites. Parce que là-bas, les pétroliers ne sont absolument pas soumis, enfin ils ont été exonérés, sous Bush d'ailleurs, d'obéir aux impératifs de la loi sur la pureté de l'air et la loi sur la pureté de l'eau. Ils ont exonéré d'appliquer tout ça. Et donc, de l'eau qui ressortait, par exemple, ils faisaient n'importe quoi. Il y en a certains qui le livraient par camion entier aux stations d'épuration des villes, qui ne sont absolument pas faites pour filtrer et sortir les produits chimiques qu'il y avait là-dedans, ou les produits radioactifs, ou bien d'autres qui faisaient des aspersions en l'air pour que le soleil et la chaleur permettent d'évaporer toute cette eau qu'ils accumulaient dans leur réservoir en plastique, là, dans des grandes piscines en plastique qui en plus se fissuraient au fil du temps, etc. Donc il y a eu beaucoup de dégâts. Simplement pendant un certain temps, les éleveurs et les cultivateurs qui avaient été payés, si on peut dire, pour cette exploitation, se sont tus. Et c'est quand les problèmes de santé humaines ont augmenté, que là, quand même, là, ils ont pété les plombs, ils ont dit c'est pas possible, on va pas sacrifier complètement de santé pour les dollars, quoi. Et parce que les compagnies n'ont pas pris les précautions qu'ils devraient, etc. Donc ils ont fait analyser l'euro, et dans un certain nombre de cas, les pétroliers ont été obligés d'approvisionner en eau potable ces fermiers, ces gens qui étaient là, qui avaient été agressés par ces eaux vraiment dégueulasses. Hein. C'est toutes ces images de Josh Fox dans le premier Gazland qui nous ont permis de montrer à la population ce qui risquait d'arriver dans nos régions, avec le permis de Montélimar, le permis de Villeneuve-de-Berg, le permis de Nantes dans le coin, et puis tous les autres permis dans le Nord, mais dans notre secteur, leur permis de voir ce qui risquait de nous arriver. C'est, tous les puits ne fuient pas, mais il y en a pas mal qui posent des problèmes, si on laissait faire ça, si on...
Justement, en France, donc, quelle est la politique actuelle du gouvernement? Parce que nous, on a cru comprendre que les gaz de schiste, en fait, l'extraction, si je me rappelle bien, avait été gelée par le précédent gouvernement. Et actuellement, où est-ce qu'on en est entre les discours et la pratique réelle, justement, vu que vous suivez ça du terrain?
Gelée, c'est pas le cas. Gelée, c'est-à-dire la fracturation hydraulique a été interdite par la loi dite loi Jacob du 13 février 2011. Qui interdit uniquement la fracturation hydraulique. Donc l'étape finale pour faire cracher, écraser ces roches-là. Or, cette loi, dès le début, nous l'avons dénoncée avec nos juristes, on a des commissions de juristes, etc., en disant que cette loi était attaquable. Et donc il n'y avait que la fracturation. Si bien que Nathalie Kosciusko-Morizet, a demandé aux pétroliers de faire un rapport dans les 3 mois, disant s'ils allaient utiliser la fracturation hydraulique, auquel cas leur permis était supprimé, ou bien s'ils n'allaient pas l'utiliser, auquel cas leur permis continuait à être valide, à condition qu'ils ne fassent donc qu'un forage, soi-disant sans fracturation. Et donc la plupart ont dit, on ne va pas faire la fracturation, puisqu'elle est interdite, mais on veut voir ce qu'il y a dessous, on va faire des forages verticaux. Il y en a un seul qui a dit différemment, c'est Schubbar, donc, qui est un Suisse texan qui avait le permis de Nantes et le permis de Villeneuve-de-Berg, qui a dit c'est la seule technique existante et on en a besoin, on ne peut pas faire autrement. Il dit non, moi je ferai la fracturation hydraulique. Donc lui, son permis a été supprimé, il est de suite, il a pris un cabinet d'avocat et il a attaqué en demandant des dédommagements et patati et patata. Et ensuite, il a fait travailler l'an dernier ses cabinets d'avocats pour voir comment attaquer la loi elle-même. Et effectivement, ça a été la fameuse question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire les avocats ont dit cette loi n'est pas conforme à la Constitution française. Et donc ils ont fait un mémoire, un gros dossier, qui est passé en tribunal administratif, qu'il a transmis au Conseil d'État, qui a jugé le dossier suffisamment solide pour le passer au Conseil constitutionnel, qui va donner son verdict avant la mi-octobre. Voilà, alors le dossier est tellement bien fait, la loi tellement mal faite, qu'on craint bien que cette loi ne soit abrogée. Donc, si la fracturation est à nouveau autorisée, il y a un créneau qui permettrait à des installations rapides, comme par exemple à Jouarre, donc en Seine-et-Marne, ils ont déjà installé le Déric, ils ont mis les tuyaux à côté, ils n'ont plus qu'à perforer, hein. Ils ont le permis de perforer, et si pendant un temps il y a un vide juridique où il n'y a pas de nouvelle loi interdisant la fracturation ou faisant mieux, ils vont pouvoir opérer. Et c'est pour ça que nous, par ici, dans le sud, on est prêt à bloquer les premiers camions, quels qu'ils soient, avant que ne s'installe le moindre forage, le moindre déric, etc.
Justement, alors par rapport, parce que là on va devoir conclure, oui. Par rapport donc aux auditeurs qui écoutent, quel appel est-ce que vous leur faites justement pour venir vous soutenir à ce niveau-là?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a toute la population locale qui nous soutient. On a créé des pyramides d'alerte pour que les populations viennent renforcer nos blocages. Hein. Il faudrait qu'à travers tout le territoire français, que ce soit en Seine-et-Marne, que ce soit dans l'Ain, que ce soit dans les Savoies, partout où il y a ce type de menace, il faut que les populations se réveillent. et poussent leur mère à prendre des arrêtés qui vont bien, ce qu'on avait fait il y a maintenant un certain temps, là, il y a maintenant 2 ans, prendre des arrêtés d'interdiction, un tas de trucs, ça freine, les préfets sont obligés de casser ces arrêtés, bref, ça les freine, et on a des modèles. Il faut que partout, nous on ne peut pas se déplacer, on a des troupes, enfin on a organisé nos troupes pour bloquer sans violence les camions s'ils arrivent chez nous, mais on ne peut pas se parachuter sans arrêt, soit en Seine-et-Marne, soit dans le sud-ouest, soit dans l'Ain ou je ne sais où. Donc il faut à tout prix que les populations soient conscientes que le politique, les politiques élus, suivent la plus grande pression, ils vont là où les poussent. Les gens. Actuellement, la partie de bras de fer pour l'histoire des gaz et huiles de schiste, elle est entre les populations et les pétroliers. Parce que nos élus subiront pour l'instant, ils subissent souvent la pression très forte des pétroliers et des politiques qui sont à leur botte, certains politiques qui sont à leur botte. Tandis qu'il faut qu'on se réveille, que les populations rétablissent une vraie démocratie. La démocratie, c'est pas d'élire et puis de s'endormir pendant 5 ans. C'est de soutenir les élus pour qu'ils aillent dans le bon sens. Et là, il faut que les populations se réveillent pour pousser les élus à prendre les bonnes décisions et à soutenir les bonnes orientations et à bloquer les mauvaises.
Je sais qu'en Ile-de-France, donc, il y a un collectif qui est assez actif. Je ne sais pas s'ils arrivent à mettre la pression suffisante sur leurs élus qui ont peut-être aussi une mine d'or sous les pieds.
Je reconnais que c'est plus facile chez nous. Oui, une population, on n'a pas beaucoup de population, mais il y a comme une certaine densité, beaucoup d'activités agricoles, touristiques, etc. Les gens savent ce que veut dire l'eau potable. Il n'y a pas seulement l'eau qui sort du robinet, quoi. Mmh. Et donc, ça a été relativement facile, on peut dire, de les mobiliser en leur projetant une partie du film de Josh Fox, Gasland, une partie seulement, et ensuite entamer les débats. On avait une partie de 22 minutes du film, et ensuite, il suffisait de dire l'Ardèche, Gasland en Ardèche, vous le voulez, et ça y est, c'est parti, l'ambiance était déclenchée. Hein. Alors, voilà, demain, justement, on accueille ici Josh Fox, à Villeneuve-de-Berg, dont il est citoyen d'honneur, bien sûr, qui nous a beaucoup aidé à réveiller les populations, à leur montrer ce qui risquait d'arriver si elles ne venaient pas avec nous pour constituer une force de blocage des camions. C'est ce qui a manqué dans les grandes plaines. C'est souvent des betteraves ou je sais pas quoi, là, dans la région parisienne, la grande plaine où il y a déjà beaucoup de forages, d'ailleurs en conventionnel, c'est-à-dire sur des réservoirs. Donc ça fait des forages en plus et les gens n'ont pas bien réalisé suffisamment. Donc ils ont fait des manifestations de protestation, mais ça n'a pas empêché S-Oil d'installer sur 2 ou 3 hectares qu'il a réussi à acquérir ou à louer. Un périmètre, et là-dedans, il a installé une superbe derrick, hein, 50 mètres d'eau quand même, mais tout neuf, là, très beau, si on peut dire. Et puis, d'amener des camions pleins de... Bon, il y a des kilomètres de tuyaux qui sont couchés à côté, ils sont prêts à agir. Hein. Et ça, il faut arriver à bloquer d'autres implantations. C'est ça le challenge actuellement. Il faut à tout prix bloquer ces implantations, montrer que la population ne veut pas, et donc agir sans violence, c'est important aussi, agir sans violence pour bloquer toutes ces initiatives. Pourquoi sans violence? Sans violence, il faut à ce moment-là que les populations soient assez nombreuses. Parce qu'il est bien certain que les premiers camions qui arriveront, par exemple chez nous, si jamais ils arrivent un jour, s'ils n'ont pas peur, ils seront encadrés par des gens en bleu, quoi, vous voyez. Donc là, il y a des techniques de blocage qui sont importantes. On peut bloquer quand même sur route. Bref, on avait imaginé des tas de trucs type Greenpeace. Là. Mais également, il faut que les pyramides d'alerte qu'on a constituées nous permettent d'alerter des centaines puis des milliers de gens de la contrée qui viennent fabriquer un arc de sécurité surveillant les forces de l'ordre là, pour pas qu'elles fassent n'importe quoi, comme c'est le cas parfois. Et on a averti les préfets de ce côté-là. Fasse n'importe quoi et ensuite manifestant que la population ne veut pas laisser commencer les moindres travaux, y compris l'exploration sismique par les camions qui ne font pas de mal, mais qui...
Merci beaucoup Jean-Louis Chopy, mais on va devoir arrêter actuellement parce qu'on doit enchaîner après un autre entretien. Oui. Merci beaucoup en tout cas. Donc pour se renseigner, on peut aller donc sur stopgazdeschiste07.org.
Et donc on le remettra sur le site internet de l'émission Zoom Écolo. zoom-écologie.net, où vous pouvez retrouver toutes les archives des émissions Zoom Écologie du jeudi soir.
Le projet d'aéroport, il n'a pas de raison d'être. Il y a un aéroport. Il y a des gens qui, dans d'autres régions, qui se disent bah, pourquoi ils ne veulent pas d'aéroport. Parce qu'il y en a déjà.
Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est un vieux projet quoi, qui date de 1967. Un projet qui veut construire une infrastructure aéroportuaire sur une zone bocagère, une zone agricole. Projet grandiose comme ça qui risque non seulement de détruire l'environnement, mais aussi détruire des cadres de vie, détruire aussi la volonté des gens de décider pour eux-mêmes.
Le projet doit s'étendre sur 1700 hectares.
C'est un projet inutile et dépassé. Le coût de ce projet est faramineux. Il pourrait atteindre plusieurs milliards d'euros.
Il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas de personnel pour les écoles. On n'arrête pas de nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour les services sociaux. Mais alors, il y a toujours de l'argent pour ce genre de conneries.
Plusieurs milliards, plusieurs milliards.
Un mouvement d'occupation s'est étendu sur les bâtis et bocages menacés.
Nous tentons de construire ici des solidarités, des confiances, de la puissance collective, des moyens d'action.
Essentiellement pour l'aspect de vie collective et de plantation de potagers, des gens qui ont construit des éoliennes à partir de rien et qui sont autonomes aujourd'hui en électricité, des gens qui ont monté des sambas, des activités de clowns, des ateliers d'écriture, il y a une profusion de gens.
Démolie pour les besoins du chantier de l'aéroport.
Les forces de l'ordre sont à chaque carrefour.
Mardi, c'était la guerre, dit Alain. C'était le premier jour des expulsions des activistes qui occupent la zone à défendre, la ZAD.
Solidaire, viré par des flibustiers, indiens, paysans sans terre, humiliés. Ils ont versé tous les pleurs, maudit toutes les prisons. Dit pourquoi auraient-ils peur et de quoi donc? Ensemble, tous ensemble, et qu'importe leur nom, regarde, ils te ressemblent ceux qui disent.
Alors juste avant, donc c'était Dub Amix avec notre Dub des Landes. Donc, rapport avec la ZAD, la zone à défendre autour de Nantes, au nord de Nantes, où le projet d'aéroport ne se fera pas, on l'espère. Un sujet qu'on a pas mal couvert dans l'émission Zoom Écologie, et un sujet qui a aussi été couvert par Hervé Kempf, journaliste, ex-journaliste du Monde, qu'on va avoir au téléphone dans quelques instants, et qui s'est fait censurer, il va nous expliquer par sa direction, sur ce sujet assez sulfureux, qui ne passe pas dans les médias dominants, ou plus. Ouais, notamment, il y a eu... c'est un vieux projet, donc on en a déjà parlé dans l'émission, mais juste pour les auditeurs qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas entendu parler. Projet qui a le soutien assez fort de l'État, de l'ancien maire de Nantes, qui est aujourd'hui Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Et donc, avec des violences policières à partir de novembre, où il y a eu des expulsions de maisons occupées, d'un tas de terrains, de cabanes aussi qui ont été construites dans les arbres. Et bon, ça s'est un peu calmé ces derniers mois. Néanmoins, les populations sur place, qu'on appelle les zadistes, et puis les populations qui étaient là même avant, restent mobilisées. Et donc, il y a une couverture médiatique qui a été finalement assez faible ou assez... assez partiel sur le sujet. Et justement, les quelques journalistes qui ont voulu faire du bon travail, ils ont quand même eu pas mal de problèmes, je pense, vis-à-vis des pouvoirs publics et aussi vis-à-vis de leurs responsables rédactionnels. Donc à Zoom Écolo, bon, on a toujours eu une parole libre parce qu'on n'a pas de responsable rédactionnel. On rappelle que voilà, les animateurs sont des bénévoles, vous l'aurez remarqué. Mais donc il y a quand même des journalistes professionnels qui ont couvert l'événement. Pendant un temps... disons que les choses les plus évidentes ont pu se mettre en place. Et donc, on a Hervé Kempf au téléphone, hein, qui va nous parler de sa démission récente du Monde.
Bonjour Hervé Kempf.
Bonjour.
Bienvenue. Vous avez fait paraître récemment donc, une tribune qui s'appelle « Adieu le Monde, vive reporter ». Vous avez été donc journaliste au Monde pendant 15 ans et
ouais,
un jour.
Ouais.
Après y être entré. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce que vous avez fait déjà en tant que journaliste au Monde?
Ben, j'ai fait mon travail de journaliste qui était d'informer sur les questions d'environnement et donc de faire un travail d'enquête, de reportage, de compte-rendu, d'interview pour tenter de relater les événements qui me paraissaient les plus importants en matière d'actualité sur l'écologie.
Et donc récemment, vous avez travaillé donc sur Notre-Dame-des-Landes, c'est ce que vous expliquez dans cette tribune. Et justement, qu'est-ce que vous avez pu voir en tant que journaliste là-bas?
Alors précisons que cette tribune, ce texte « Adieu le monde, vive reporter » a été publié sur Reporter, le site d'information sur l'écologie, reporter.net. Et ben, ce que j'ai vu à Notre-Dame-des-Landes depuis que j'ai commencé à y aller vers 2007, on m'a alerté là-dessus. J'avais rencontré des gens qui doutaient du projet d'aéroport, et puis j'y suis retourné plusieurs fois. J'ai fait un grand papier en 2009 et j'ai toujours suivi ça avec attention. Et ben, ce que j'ai vu, c'est ce que tout le monde a senti de loin, c'est-à-dire un mouvement très important qui est non seulement la critique d'un projet extrêmement discutable pour ses conséquences écologiques importantes, à la fois en termes de destruction de zones humides et de terres agricoles, à un moment où il faut arrêter de gaspiller l'espace et arrêter d'artificialiser les sols et de détruire des terres agricoles. Des conséquences environnementales aussi importantes en termes d'émissions de gaz à effet de serre, puisque si on développe un aéroport, c'est qu'on espère développer le trafic aérien, et jusqu'à nouvel ordre, les avions émettent en quantité importante des gaz à effet de serre. Ce que j'ai vu aussi, c'est, comme beaucoup de gens, c'est quelque chose de tout à fait passionnant, de renouveau de lutte politique, c'est-à-dire à côté d'opposants, j'allais dire historiques, très tenaces, juridiques, qui avaient fait du très bon travail depuis près de 20 ans maintenant, je crois. Il y a eu l'arrivée depuis quelques années d'autres personnes qui ont occupé directement la zone concernée, qui est la zone d'aménagement différé en termes technocratiques, et qu'ils ont appelé la zone à défendre et qui ont commencé à l'investir, à occuper les maisons qui avaient été abandonnées ou par des paysans qui étaient trop âgés. Et on commençait non seulement à les occuper, à faire revivre cette zone, mais aussi à développer, notamment dans la lutte, des nouvelles formes politiques, un travail de recherche d'une démocratie véritable, de lutte en commun, sans hiérarchie. Et par ailleurs, une alliance vraiment intéressante et importante entre cette culture politique nouvelle et la culture politique plus traditionnelle des opposants historiques. Et je crois que ce qui est passionnant, c'est que c'est cette alliance qui a permis, pour l'instant, de faire reculer le pouvoir. On peut pas dire qu'il y a eu une victoire encore, mais en tout cas, le pouvoir a très nettement reculé. Voilà, et puis tout ce qu'on peut y voir aussi, c'est l'extraordinaire intérêt qu'a suscité la lutte de Notre-Dame-des-Landes en France et qui a entraîné la création de très nombreux comités Notre-Dame-des-Landes dans beaucoup d'endroits en France, et puis aussi l'idée qu'il y avait partout des zones à défendre, et que cette métaphore de la zone à défendre, cette recherche de nouvelles formes politiques à la fois actives, démocratiques, non hiérarchiques et très impliquées, se retrouve dans beaucoup d'autres endroits. Donc ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes est très inspirant pour le renouveau des mouvements politiques de base en France et peut-être ailleurs.
Et justement, donc la question de Notre-Dame-des-Landes s'attaque donc à des intérêts économiques et politiques qui sont arrivés même, donc selon vous, à vous toucher en fait donc au sein de votre travail donc au monde. Et est-ce que vous supposez en tout cas qu'il y a vous constatez. C'est ce que vous expliquez, qu'il y a eu quand même une forme de mise à l'écart par rapport à ce dossier gênant, et notamment donc
ça. C'est une chose. Il y a une question. Il y a des intérêts économiques et politiques très importants qui sont impliqués dans Notre-Dame-des-Landes. Ça c'est certain. Il y a un intérêt politique énorme de Monsieur Jean-Marc Ayrault, qui était longtemps maire de Nantes, et des actuels. Administrateurs ou élus, grands élus de la mairie de Nantes et de la métropole de Nantes. Il y a par ailleurs des intérêts économiques extrêmement importants, notamment portés par l'entreprise Vinci, qui est censée réaliser ce projet d'aéroport. Ça, c'est une chose. Et on peut penser qu'effectivement, ces intérêts économiques et ces intérêts politiques sont très puissants. Une capacité d'agir et d'influencer un certain nombre d'acteurs. Ça, c'est une chose. Par ailleurs, il n'y a pas eu une forme de mise à l'écart. Il y a eu une interdiction qui m'a été signifiée par la direction du journal Le Monde en novembre 2012 de continuer à faire mon travail de journaliste sur Notre-Dame-des-Landes. Alors que c'est un sujet que je suivais depuis 3 ans, sur lequel j'avais signé le plus d'articles, où j'avais fait la première grande enquête sur une page à propos de ce sujet, et sur lequel j'avais sorti plusieurs informations exclusives, dont par exemple la révélation du conflit d'intérêts existant entre le fait que le préfet de Loire-Atlantique, donc un haut fonctionnaire en principe au service de l'État et de l'intérêt général, qui avait organisé l'appel d'offres qui a eu lieu vers 2007-2008, a ensuite quitté son poste, puis... Quelques années après, 2 ans après, a été embauché par l'entreprise Vinci qui avait remporté cet appel d'offres. Donc il y a eu, pour en revenir à ce qui s'est passé dans mon travail au Monde, l'interdiction par la direction du journal de continuer à suivre le dossier Notre-Dame-des-Landes, sauf dans un espace très limité au demeurant libre, et limité de 2400 signes, c'est-à-dire vraiment très peu... qui était la chronique écologie.
Et justement, sur le travail journalistique que vous menez donc dans un média que nous on appelle dominant, vous parliez même que les derniers mois suivants, donc vous disiez dans cette tribune, qui ont été pénibles, c'est-à-dire qu'il y a eu comme une sorte de pression psychologique, c'est ça que vous expliquez, sur vous en tant que journaliste, et sur d'autres journalistes aussi d'ailleurs.
C'est-à-dire qu'après cette interdiction, ça a entraîné évidemment une fracture grave, une rupture on va appeler ça un contrat de confiance qui existe entre un journaliste et un journal. C'est-à-dire que quand on a de l'information importante sur un dossier, eh ben on continue à travailler sur ce dossier et à chercher davantage d'informations. Surtout comme quand c'était le cas, c'est évidemment un sujet de très grand intérêt pour la société, pour les lecteurs, pour beaucoup de gens. Donc voilà, alors après, on est rentré dans une phase de conflit, dans le détail desquels je ne vais pas rentrer, ce serait un petit peu fastidieux, ou alors il nous faudrait beaucoup de temps pour bien comprendre, et j'imagine que c'est le genre de choses que peuvent vivre d'autres personnes dans d'autres entreprises, parfois difficiles, mais où effectivement il y a des formes de pression psychologique, il y avait un retournement de situation, c'est-à-dire qu'on essayait de me transformer en coupable ou en fautif, alors que je n'avais fait aucune faute professionnelle, et où je protestais contre le fait qu'on m'empêchait de travailler. Donc ça a été effectivement des mois très pénibles, et dans un contexte où du coup je me suis rendu compte qu'effectivement d'autres collègues, mais pour des raisons différentes, mais c'était révélateur peut-être d'un climat de management d'entreprise, comme on dit maintenant, qui était très malsain et qui poussait des gens, ou qui faisait que des gens se retrouvaient en dépression nerveuse, que... il fallait lancer une mission d'étude sur les risques psychosociaux menée par des psychologues, ou encore qu'il y a une collègue ou une ex-collègue, puisque moi je n'appartiens plus à ce journal, qui a porté plainte pour harcèlement moral.
Et donc vous aviez aussi donc pas un peu énoncé en fait un contexte qui est assez difficile, notamment par rapport au changement d'actionnaire qu'il y a eu donc au Monde. Et dans la première action a été donc de rétrograder donc le service Planète, pour lequel vous aviez donc, on va dire, un peu milité en intérieur du journal, parce que vous avez été un des promoteurs, je pense, de ce service, et que vous aviez même vu qu'il y avait même une ligne éditoriale en fait qui avait changé à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler?
Oui, alors d'abord, dans ce contexte-là, je n'emploie pas le terme militant, alors que même si en bon français, militer pour quelque chose, ça signifie dire que c'est important et qu'il faut le faire. Mais dans les sphères des journalistes et du journalisme qui réfléchit sur les questions d'objectivité, de neutralité, d'impartialité, je n'emploie pas le terme de militant. Même si dans le cas que vous signalez, en bon français, on pourrait dire qu'on peut militer, par exemple, pour une page Planète dans un journal. Mais donc j'avais effectivement... pousser d'une certaine manière et approuver la création d'une page Planète. Mais il faut revenir un petit peu en arrière. Le journal Le Monde, qui avant était largement contrôlé par ses journalistes, parce qu'ils avaient une part importante au capital de la société éditrice, ce journal a été racheté en juin 2010 par des capitalistes, c'est-à-dire des personnes qui disposent de grands capitaux, des personnes très riches, en l'occurrence des millionnaires ou milliardaires, s'appelle Monsieur Berger, Monsieur Niel et Monsieur Pigasse. Et donc l'analyse que je fais a posteriori, même si sur le champ je savais que c'est quelque chose qui arriverait, c'est que ils ont impulsé une orientation nouvelle ou différente de la ligne éditoriale. Et c'est quelque part normal puisque quand on possède un média, on le possède pas pour se faire plaisir, on le possède pour influencer, pour lui donner un certain sens. Et donc, ce journal, peu à peu, a de plus en plus été orienté vers une ligne éditoriale qui correspond à la vision du monde, qui est celle des capitalistes. Et je rappelle que quand j'emploie le terme capitaliste, c'est très précisément pour dire les gens qui disposent de beaucoup de capitaux. Voilà, ça c'est une chose. Après, il y a eu un changement de direction éditoriale, c'est-à-dire qu'un niveau inférieur de hiérarchie a changé, et il y a eu effectivement une nouvelle directrice des rédactions, je ne me rappelle plus quel est le titre exact, peut-être directrice du journal, en mars 2013, suite au décès du précédent directeur, qui s'appelait Eric Israelevitch. Et donc en mars 2013, il y a eu une inflexion encore plus marquée qui me paraissait signifier ou concrétiser l'orientation que souhaitait les capitalistes qui avaient acheté le journal en 2010. Et donc, cette orientation s'est marquée par plusieurs choses. La création d'un journal, d'un cahier dédié à l'économie et aux entreprises, la rétrogradation du service Planète qui est devenu un pôle subordonné au service international, et puis plus globalement une attitude de collaboration, de coopération d'intérêt très grand avec les grandes entreprises, avec les grands dirigeants d'entreprises.
Et donc toutes ces collaborations donc influent la ligne éditoriale certainement du journal. Et aujourd'hui donc vous avez démissionné donc du journal Le Monde et vous dites que maintenant vous êtes libéré et chômeur pour être plus exact. Donc donc vous allez vous mettre donc pas mal à travailler sur le site internet Reporter. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement de cette forme de médias libres, on pourrait dire?
Oui, on peut le dire. Alors d'abord, j'ai pas démissionné. On est arrivé à une rupture conventionnelle de contrat. Par ailleurs, je suis effectivement chômeur. Ça, c'est l'objectif. D'ailleurs, il faut que j'aille m'inscrire à Pôle emploi. Et là, j'ai été tellement débordé cette semaine que j'ai pas pu le faire. Mais il faut vraiment que je m'en occupe. Donc, ça va être une situation qui est pas très agréable, mais en tout cas, c'est une évolution économique désagréable. Mais bon,
il faut Cyril qui est dans le même cas, qui veut bien y aller avec vous, je pense.
Pardon ?
Cyril est dans le même cas dans la régie.
Notre technicien est dans le même cas que vous.
Donc, il sait que s'il avait un boulot fixe avant et qu'il est chômeur, il y a moins d'argent quand même. C'est pas facile. Moi, j'ai aussi fait ce choix de la rupture conventionnelle. Parce que en tant que journaliste, la liberté me paraissait absolument essentielle. Donc, je me plains pas, je regrette rien. C'est un choix totalement assumé. Et effectivement, maintenant, je vais m'investir dans ce site de l'écologie, reporter.net, reporter reporter.re, c'est-à-dire dans ce mot qui, d'ailleurs, on l'avait créé par ordinateur, signifie qu'on veut parler de la Terre, de la planète, des questions d'écologie, mais en étant des reporters, en étant des journalistes, en allant voir, en racontant, précisément en n'étant pas militant, comme on l'employait tout à l'heure dans un autre contexte, mais de faire notre travail de journaliste. Mais notre travail de journaliste pour raconter ce qui arrive à la Terre, et le mot Terre, c'est évidemment un symbole de la biosphère et de l'environnement dans lequel vit l'humanité. Et donc, notre conviction, c'est qu'effectivement, il faut un équilibre écologique planétaire important pour que les sociétés humaines puissent s'épanouir dans la paix et dans la dignité humaine. Donc, cet outil, c'est un site internet qu'on a relancé il y a 3-4 ans, qui était modeste, mais enfin qui nous a permis de tester un certain nombre de choses, d'apprendre à travailler, d'être prêt. Et donc maintenant, on va lui donner... On a un bon outil et maintenant c'est un peu comme un bateau, on a fait des ronds dans le lac, on a un peu testé tout et puis maintenant on prend la mer quoi. Donc on va lui donner plus d'ampleur, d'abord parce que moi je vais pouvoir y travailler quasiment à plein temps, et puis on va se donner les moyens, enfin surtout on espère que vous de lecteurs et d'internautes et tout simplement des citoyens qui comprennent que c'est important d'avoir des médias libres dans l'écologie, vont soutenir ce travail et vont soutenir ce site.
Ouais, je pense que les auditeurs de Fréquence Paris Pluriel en sont convaincus.
Super.
Puisque c'est une radio associative qui a plus de 20 ans aujourd'hui,
ouais.
Qui est toujours indépendante.
Bravo.
Sur la bande FM, il n'y en a pas des masses.
D'accord, à l'occasion d'ailleurs, reporter, nous on veut aussi être le porteur de toutes les alternatives, parce qu'on a un aspect... Enfin, allez voir sur le site ceux qui le peuvent, hein, reporter.net, excusez-moi de le répéter, mais on veut faire un travail d'investigation, d'enquête, parfois de critique au bon sens du terme, voire de dénonciation, mais aussi on s'est rendu compte qu'il y a une myriade d'alternatives, qu'il y a une société extrêmement créatrice, beaucoup plus dynamique que l'image morose et sinistre qu'en donnent les médias dominants. Et donc, voilà, nous, on veut aussi relayer toutes ces initiatives. Donc, par exemple, voilà, on a souvent parlé de radio citoyenne, de radio associative, parce qu'on pense que c'est absolument important. Et ça l'est, d'ailleurs. Et donc, si Paris Pluriel a fait quelque chose sur l'écologie ou sur ce thème, nous on vous relaiera et on est là pour ça.
Depuis 20 ans, l'émission Zoom Écologie, avec différentes équipes, informe justement sur ces sujets. Donc nous, on n'est pas là il y a 20 ans. Mais
on a une rubrique à découvrir. Et... Enfin bon, ça fait peut-être hors antenne, comme on dit. Mais
tout à fait.
De toute façon, on relaie déjà les informations de reporters depuis 2 ans. Quand il y a des choses intéressantes, on en relaie toujours, de toute façon. Et justement, juste une dernière chose, alors sur quel modèle économique vous vous basez dans Reporter pour l'instant ? Est-ce que je pense que vous devez y réfléchir en ce moment même. Et justement, donc, je crois que j'avais vu sur le site internet qu'on peut faire des dons pour aider justement le journal, je pourrais dire, sur internet à se développer.
Le modèle économique, il n'y a pas de modèle. Hein. Moi, déjà, j'aime pas le terme de modèle, mais bon, ça c'est un autre débat. Pour l'instant, on a un tout petit budget, c'est-à-dire à peu près, là, sur l'année, on aura eu à la louche 15 000 euros. Donc, une part vient des conférences que je fais, parce que j'ai écrit des livres, Comment les riches détruisent la planète, ou le dernier, Fin de l'Occident, Naissance du monde. Donc, souvent, les gens me demandent de venir en conférence, et je le fais bien volontiers, mais maintenant, je demande à ce que ce soit payé, et pas pour que ce soit payé pour moi, mais c'est payé à l'ordre de l'association La Pile, l'association pour une presse indépendante, libre et écologique, qui soutient Reporter. Et puis, on a une fondation alternative qui nous a alloué 7000 euros. Donc voilà, on n'a pas eu le temps de faire les comptes, mais on a de quoi tourner, de payer, parce que notre idée, c'est qu'il faut que le travail soit payé. On n'est pas dans une logique associative, on a une structure associative, mais pour avoir une forme juridique. Mais l'idée, c'est qu'il faut que le travail d'information soit payé. Donc, on paye le jeune éditeur qui met en ligne et qui aide à l'édition tous les matins. On paye un peu le Thierry, le camarade qui fait un super boulot informatique. On paye les journalistes. Alors, c'est des piges, c'est un tarif très modeste, mais enfin, on tient vraiment à payer les journalistes qui publient sur notre site et qui font du bon travail, qui apportent des informations originales. On espère, normalement, si tout va bien, on va embaucher un jeune journaliste à mi-temps pour 4 mois. Voilà, moi je suis à Pôle emploi, donc je vais pouvoir bosser comme ça sur un reporter et donc contribuer à préparer la création d'une entreprise sous forme coopérative, vraisemblablement, enfin, on verra. Et puis après, pour l'avenir, on espère que tout ça va continuer, qu'on va avoir d'autres fondations. Et puis, effectivement, on a mis en place un appel aux dons. D'ailleurs, je ne sais pas si le terme de don est bon, mais à la limite, peu importe, mais enfin, de soutien. Et on dit simplement, de la même manière que c'est normal qu'on paye le pain, parce que le boulanger qui a fait la baguette ou le gros pain, il a travaillé. Et donc, c'est normal que son travail soit rétribué. De la même manière, l'information, si on considère que c'est vital, il faut payer ceux qui la font.
Tout à fait. On rappelle que la radio FPP a aussi besoin d'un peu de sous. Donc n'hésitez pas à envoyer des dons à 1 rue de la Solidarité.
Absolument.
Donc merci beaucoup, Monsieur Kempf. Donc bon courage pour cette nouvelle aventure.
Merci.
Et donc on arrive au terme de l'émission.
On doit rendre l'antenne.
On doit rendre l'antenne encore.
On vous remercie beaucoup.
À très bientôt.
À très bientôt.
À bientôt.
Et donc, on va passer l'antenne à Musique Antilles juste après. Qui veut l'antenne, évidemment, puisque c'est l'heure. Donc, on vous salue. À la prochaine.
Merci. Au revoir.
Au revoir.